Je suis de retour, je discute avec Évangéliste Bourdage, qui est le président de Relance Fort-Prével, cet organisme à but non lucratif qui a pris en main la reprise des activités à Fort-Prével. On sait que c'était à vendre depuis presque 2 ans, lorsque l'été passé, il y a eu cette entente, presque jour pour jour, d'ailleurs. Évangéliste Bourdage, bonjour.
Bonjour.
Dans les prochains jours, ça fera 1 an qu'on a réussi à éviter une fermeture complète là, de Prével.
Tout à fait. Écoutez, l'année dernière, à cette époque-ci, l'avenir de Fort-Prével était incertain. Nous, on avait la conviction absolue que si le milieu intervenait pas à Fort-Prével, ben, c'était la fin des activités et on risquait carrément de perdre un actif majeur pour l'ensemble de la collectivité.
Il y a eu aussi de l'argent donné par la CEPAC lors de cette reprise?
Oui, tout à fait. On a négocié de façon assez intense avec la CEPAC et le ministère titulaire de la CEPAC par l'entremise de M. Lessard pour obtenir des compensations parce qu'on était tout à fait conscient qu'il y avait beaucoup d'infrastructures à Fort-Prével qui avaient souffert du manque d'entretien et qui nécessitaient des investissements. Fait qu'on a réussi à obtenir un budget significatif de 1,3 million de dollars quand même.
Sur trois ans,
ouais. Oui, tout à fait. Maintenant, au-delà de ça, on était, je vous dirais, l'élément qui a été pour nous perçu comme très positif, c'était l'engagement qu'avait pris M. Lessard lors de la passation des pouvoirs en compagnie de M. Proulx, ministre de la Région, qu'il était au-delà de ça disposé à continuer à nous supporter dans le temps, à faire un comité de suivi et d'injecter, de nous supporter dans notre plan d'affaires dans le futur.
Un autre élément qui a été très important parce que peut-être pas sûr que ça aurait fonctionné, c'est la décision aussi au niveau des employés. Parce qu'on parlait d'une trentaine d'employés à l'époque, c'est pas le cas aujourd'hui, là.
Tout à fait. C'est là-dessus, j'ai eu l'occasion de le faire à plusieurs reprises et puis on ne mentionnera jamais assez haut et fort que la bougie d'allumage là, qui est de tout ce projet-là, ça a été la décision qu'ont prise les employés de laisser tomber les privilèges que leur concédait la convention collective. On ne leur sera jamais assez reconnaissant. Évidemment, on ne pouvait pas nous prendre l'engagement de sauver tous les emplois. Mais en contrepartie, on avait pris l'engagement de recruter à l'intérieur du personnel existant. Évidemment, l'année dernière aussi, on a diminué ou pas exploité certains volets des infrastructures de Fort-Prével. Avec le temps, on verra ce qu'on va réanimer. Maintenant, encore une fois, je profite de l'occasion pour exprimer ma reconnaissance à l'endroit des employés. Puis d'ailleurs, on a pu constater que si on a réussi à relever un des défis majeurs pour l'année numéro 1, c'était de démontrer qu'on pouvait opérer Fort-Prével. Et si on l'a réussi, c'est grâce au personnel existant.
On est passé de combien de travailleurs? Une trentaine?
L'année dernière, on a eu, je pense, jusqu'à 13 employés quand même. C'est des emplois qui ont été sauvés, il faut comprendre, parce que, je le répète, si on n'était pas intervenu, on est resté avec la conviction que Fort-Prével n'existerait plus.
Du côté de la CEPAC, on nous disait que ce n'est pas rentable. C'est pour ça qu'on a décidé de mettre les infrastructures à vendre. On parlait de déficit là, de 600, 700 000 par année. Quel est le bilan financier cette année?
Bien, tout d'abord, je préciserais qu'on a été très, très clair là-dessus. On avait besoin d'un horizon de quelques années, nous, puis on voit 5 ans. Pour atteindre le point d'équilibre à Fort-Prével. Les deux objectifs premiers qu'on s'était fixés pour la première année, c'était d'abord que ça ne ferme pas, je le répète, et puis aussi de démontrer qu'on pouvait l'opérer. Sur le plan financier, j'avais été très clair lors de la première réunion l'année dernière. Intérieurement, je souhaitais que le déficit soit autour de 150 000 $. Maintenant, on termine l'année quand même à 160 000 $ de déficit, ce qui inclut les frais pour les taxes municipales. Dans le moment, on est en processus de négociation pour être exempté des taxes municipales. Ça fait que c'est quand même un poste, là, les deux municipalités, de l'ordre de 40 000 $.
Donc, quand vous parlez de ça, expliquez-nous, parce qu'il y a des demandes à la Commission municipale du Québec, c'est ça?
Tout à fait. Il y a eu des auditions la semaine dernière et on a présenté notre dossier au commissaire. On a fourni des éléments complémentaires à la requête du commissaire et on verra pour la suite des choses.
Mais vous pourriez sauver 40 000 $ là des deux municipalités, Percé et Gaspé?
Tout à fait. Ce qui viendrait aider beaucoup. Pour ce qui est du reste, l'année 2, on n'anticipe pas de faire des bénéfices. Ce qu'on anticipe cette année, c'est d'augmenter l'achalandage, augmenter le chiffre d'affaires. Et notre horizon pour atteindre le point d'équilibre, je le répète, c'était 5 ans. Donc, il nous reste les 4 prochaines années pour faire la preuve qu'on peut atteindre l'équilibre à Fort Prével.
Quand on parle, évidemment, des opérations, là, qu'est-ce qu'on a opéré? C'est surtout le club de golf et le camping. Précisez-nous un peu, là.
Oui, il y a eu 3 éléments qu'on a pu garder. C'est le club de golf, le casse-croûte et puis le camping. Le volet de la restauration. Il y a eu un peu d'hébergement aussi au niveau des chalets. Maintenant, tout ce qui concernait les chambres n'ont pas été exploitées, puis la salle à manger non plus.
Au niveau du golf, comment ça s'est passé? Est-ce qu'on a eu autant de membership que les années précédentes? Est-ce qu'il y a eu une prise de conscience aussi du milieu par rapport à ça, là, qu'on était sur le bord de perdre cette infrastructure-là?
Oui, évidemment, ce qu'il faut ramener, à Fort Prével, c'est augmenter l'achalandage là, qui était en déclin. On est tous conscients, puis on le savait dès le départ, là, que le golf n'est pas nécessairement en expansion en Amérique du Nord, là, que ce soit aux États-Unis ou à Montréal ou ailleurs au Canada. Il y a un genre de repli. Nous, on se disait que compte tenu de la population qui a Gaspé et à Percé, on avait quand même accès à un bassin significatif. C'était pas logique qu'on ait un déclin au niveau du membership. Fait qu'on a mis en place une stratégie au niveau des coûts de la tarification et puis on a vite constaté un regain significatif de l'achalandage. Du côté de l'hébergement, on a fait le choix un peu à la dernière minute d'ouvrir les chalets. On s'est aperçu que ça répondait à un besoin. Fait qu'on a une stratégie au niveau marketing là, qui vise à attirer la clientèle et ça a donné des résultats. Puis fait plus intéressant, on constate là, parce que notre site web était en opération de plus en plus. Et là, il y a des réservations qui se font. On a des activités de prévues. On a une autre grosse augmentation au niveau des réservations pour le camping, pour les chalets. Bref, on démarre cette année sur une note beaucoup plus encourageante que l'année dernière.
Pour nous donner une idée, là, est-ce que c'est dispendieux jouer au golf, l'achat de la carte, les équipements pour vous, là, par rapport à un autre sport, je ne sais pas, le ski alpin ou le hockey? On se pose la question des fois.
Oui, tout à fait. Peut-être que dans l'esprit des gens, le golf, c'est quelque chose qui est dispendieux. Moi, je dirais que le golf, c'est peut-être quelque chose qui est consommateur au niveau du temps beaucoup plus qu'au niveau de l'argent, parce qu'à partir du moment, si demain matin on décide d'aller faire du voilier, comment on met d'argent par été pour faire du voilier, c'est parce qu'on aime quelque mm-hmm. chose. Ce qu'on est conscient, nous, il y a eu un changement au niveau des mœurs et puis on met vraiment l'accent au niveau de la famille. À l'époque où la fin de semaine, papa allait jouer au golf puis maman restait à la maison avec les enfants, c'est révolu. Puis c'est bien correct comme ça aussi, je le mentionnais hier soir. Ce qu'on veut vraiment faire, c'est créer un contexte, un environnement familial. On a mis des forfaits en place où, là, papa peut venir jouer au golf avec les 2 enfants et maman à des coûts vraiment compétitifs, intéressants. Fait que je vous dirais que si on décide d'aller pêcher le saumon, si on décide d'aller faire autre activité, faire de la motoneige, ben c'est un investissement de 20 000 $ et puis t'es pas encore démarré. Je crois que c'est pas tellement ce côté-là, faut le voir. Il y a des gens qui découvrent une passion dans le golf. C'est un sport qui, au-delà d'être un sport, offre beaucoup d'avantages sur le plan social et on veut, nous, y donner un cachet familial.
Jouer là-dessus, beaucoup.